La librairie associative La Luciole et le collectif Solidarité Kurdistan proposent une série de podcasts et de rencontres. Premier rendez-vous le vendredi 4 octobre à 19h au Centre culturel et démocratique kurde, 31 rue Patrick Dongois. Berivan et Supi évoqueront l'histoire de ce peuple, ses valeurs et sa résistance à l'oppression.
Donc aujourd'hui, ça va être un peu une présentation globale de l'histoire kurde, de la culture kurde, de Abdullah Öcalan et savoir où ils en sont actuellement, les militants kurdes, notamment à travers le contexte géopolitique. On a la chance d'avoir Supi avec nous, qui est rémois, kurde, et Berivan Firat, qui est venu nous rencontrer. Alors Supi, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de l'histoire kurde ?
Bon, on va dire que c'est une histoire de 5000 ans. Il vaut mieux définir les termes. Le contexte, c'est quoi ? C'est une région du Moyen-Orient, qu'on appelle Kurdistan, qui est grand comme la France, et habité principalement par un peuple, donc qui sont majoritaires sur ce territoire, qui s'appelle les Kurdes. Les Kurdes, c'est un peuple aujourd'hui de 45 millions de personnes, et bon, donc ils sont le plus grand peuple sans État au monde. C'est un peuple autochtone au Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'il est là-bas, il n'est pas venu d'ailleurs. Bah d'ailleurs, on les compare souvent aux peaux rouges. Il y a des gens qui sont venus et ils ont voulu les assimiler. Voilà. Le Kurdistan, il est sur 4 pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'État qui a pu se former jusqu'à aujourd'hui, enfin au XXe siècle, qu'on pourrait appeler Kurdistan et qui serait sur la totalité du Kurdistan historique. Donc il est réparti sur 4 États. La Turquie au nord-ouest, l'Iran à l'est et au sud, l'Irak et la Syrie. Pourquoi on en est arrivé là? C'est qu'en fait, tout a commencé, on va dire, à la fin de la Première Guerre mondiale. La fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est du mauvais côté de la barrière, il est avec les Allemands, il a perdu la guerre. Donc les gagnants, les Anglais et les Français, ben, décident de ce qui va arriver de l'Empire ottoman. Et un traité, qu'on appelle le traité de Sèvres en 1920, dit que, par un article du traité, qui dit que les Kurdes et le Kurdistan ont droit à l'autonomie, par le principe du droit des peuples à l'autodétermination. Et il y avait une carte du Kurdistan, et une de l'Arménie d'ailleurs. Et le Kurdistan, bon, c'était un quart du Kurdistan réel, mais bon, c'était déjà une reconnaissance internationale, et il y avait un Kurdistan prévu. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que Mustafa Kemal Atatürk, le leader turc de l'époque, a remplacé le régime du sultan ottoman, et a en fait refusé que le traité de Sèvres soit appliqué. Et il a eu gain de cause. Il a eu un traité qui s'appelle le traité de Lausanne en 1923, dans lequel on ne parle plus des Kurdes. Les Kurdes n'existent plus dans ce traité. Et le problème de la cause kurde, la question kurde, l'instabilité au Moyen-Orient et notamment au Kurdistan, une grosse part vient de ces deux traités, ce qui a conduit par la suite. Dès le traité de 1923 de Lausanne, la première chose qu'a fait le dirigeant turc, Mustafa Kemal Atatürk, en 1924, c'est promulguer un arrêt qui interdit l'usage public de la langue kurde, qui interdit toutes les associations kurdes, toutes les écoles kurdes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à la naissance de la Turquie d'aujourd'hui. Il y a deux choses, en fait, c'est des piliers de la naissance de la Turquie qui ont rendu beaucoup de gens malheureux par la suite. C'est un, dire il n'y a jamais eu de génocide arménien, et deux, il n'y a pas de peuple qu'on pourrait appeler kurde en Turquie. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Et depuis, il y a ce qu'on appelle la question arménienne et la question kurde, qui en fait sont des questions turques. C'est-à-dire qui découlent de ce que la politique turque est depuis le départ de la création de la République. Alors, le problème des Kurdes, c'est quoi? C'est qu'on ne respecte pas le droit d'un peuple à l'autodétermination. C'est-à-dire que c'est à lui, en tant que peuple, de diriger sa vie, de s'organiser politiquement et culturellement pour promouvoir sa culture. Ça lui est interdit. Ça lui est interdit de nombreuses façons. Ce qui a commencé l'interdiction du kurde, 1924, ben ça a duré 70 ans. C'est-à-dire jusque récemment, en 91, on n'avait pas le droit à l'usage public de la langue kurde. Et bon, ça a été accepté, ça a été reconnu après de nombreuses années de lutte armée. Aujourd'hui, la situation, c'est quoi? C'est qu'on est arrivé à l'usage public est toléré. Mais si on tombe sur des gens très nationalistes et qui n'acceptent pas, il y a des lynchages, il y a des attaques de personnes qui utilisent le kurde dans la rue ou sur un chantier. Aujourd'hui, ce qui reste principalement du problème de l'interdiction du kurde en Turquie, c'est l'interdiction d'enseigner, enfin d'avoir le kurde comme langue d'enseignement, qu'elle soit publique ou privée. C'est interdit. Parce que la Turquie sait que pour réussir leur politique d'assimilation forcée, d'ethnocide, ça passe par les enfants. Si on empêche les enfants de parler leur langue, si on leur inculque la honte de leur origine parce qu'ils parlent une langue qui n'existe pas, une langue d'un peuple arriéré, ça fait des traumatismes au niveau des jeunes. Et pour des enfants qui veulent bien faire, ben pour être bon élève, il fallait donc se dire turc et renier son origine kurde. Je voulais développer ce terme d'ethnocide, parce que l'ethnocide, à la différence du génocide, c'est que le génocide, on considère qu'en éliminant physiquement une partie d'un peuple ou le peuple entier, ce peuple n'existe plus. Mais la Turquie et les trois autres États, ne pouvaient pas commettre un génocide kurde sur une population de plusieurs millions d'habitants, à l'inverse des Arméniens qui, au cours de la Première Guerre mondiale, ont été entièrement exterminés de la région. Et donc, il y a eu un génocide arménien, mais il y a un ethnocide kurde qui a lieu depuis 100 ans. Suite à ça, donc l'interdiction de l'identité kurde au début des années 20, il y a eu des révoltes kurdes. Les Kurdes n'acceptaient pas cet état de fait. Alors ces révoltes, elles ont été réprimées dans le sang. Il y a eu des déportations massives de Kurdes dans des zones turques, notamment l'ensemble de l'Anatolie où c'était invivable. Il y a eu, pendant cette répression, des actes de génocide concrets. À Zilin, en 1930, 15 000 personnes. Suite à Dersim, là c'est plus de 100 000 personnes. Et cette politique-là qui a conduit à des génocides, ça a été jusque les années 80, où en 1988, Saddam Hussein avait une politique d'en finir. C'est la solution finale avec les Kurdes. Donc il y a eu 200 000 morts dans ces années-là, 1988, et notamment le gazage de Halabja sur une ville du Kurdistan d'Irak, qui a provoqué la mort de 5000 personnes par l'utilisation d'armes chimiques qui sont interdites internationalement. Cette répression-là des révoltes, entre 1920 et 1938, ça conduit à la population kurde, elle est complètement sonnée. Les Kurdes sont réduits au silence, on ne parle plus d'eux. Pendant 20 ans, il y a une génération, toute une génération, qui a intériorisé l'infériorité de son identité et qu'il ne fallait être soit turc, soit arabe, soit persan. Et la politique la plus importante à ce niveau-là, c'est en Turquie. Après 1938, jusqu'en 1958, on ne parle pas des Kurdes, ils n'existent plus. Le mot kurde, il est interdit, on ne peut pas l'utiliser. Le mot Kurdistan, il est tabou, on ne peut pas l'utiliser. Parler d'histoire des Kurdes dans l'histoire, c'était impossible. Il a fallu en fait une nouvelle génération à partir de 1958, notamment par rapport aux événements qui se passaient en Irak, pour que petit à petit il y ait une prise de conscience des Kurdes, jusqu'à arriver dans les années 70 où il y a un réveil parmi les élites et surtout les étudiants kurdes qui conduit à la création du PKK en 1978. Donc c'est l'œuvre d'étudiants, la plupart kurdes, mais aussi des turcs, qui sont arrivés à la conclusion que le Kurdistan était une colonie, qu'il était colonisé par quatre pays colonialistes, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, et que, aussi bien kurdes que révolutionnaires turcs, ils avaient le devoir de libérer de ce colonialisme. Que cette libération devait être faite pour que les autres peuples soient aussi libres. Parce qu'un peuple qui en opprime un autre, il n'est pas libre. Le dirigeant du PKK, c'était Abdullah Öcalan, dont on va beaucoup parler. 1978, c'est la création du PKK. 1980, qui est pour une grande raison, une grande raison du coup d'État est justement ce réveil kurde et la fondation du PKK. C'est 12 septembre 80, ça, à nouveau, on décapite les dirigeants, les étudiants, la langue kurde. On refait une loi pour l'interdire, comme si ça ne suffisait pas. Et donc on n'a plus le droit de parler en kurde, de manière publique, mais même privée. C'est-à-dire que les enfants, ils n'osaient pas parler en kurde à la maison parce qu'il y avait des mouchards et qui après disaient à l'enseignant, il a parlé en kurde, du coup, il avait une amende. Donc ça a conduit cette politique de linguicide, donc qui fait partie de l'ethnocide, à un traumatisme de plusieurs générations d'enfants kurdes qui avaient honte de penser qu'ils étaient kurdes, qui avaient honte de parler cette langue, d'être un peuple qui ne devait pas exister. Et bon, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Le coup d'État, il y a eu 650 000 arrestations. Les plus importants, c'était surtout des Kurdes et des membres du PKK. En prison, les membres du PKK, principalement, ont résisté. Ils ont résisté. Ils ont tous été torturés. Il y a eu 170 morts sous la torture. Et bon, 1982, nous on connaît parce que c'était l'année du meurtre de Mazlum Doga. Après ça, les Kurdes ne voyaient plus qu'un chemin, puisque de manière pacifique, ils ont voulu faire connaître leur culture. Ils se font tuer, emprisonner, torturer. Les Kurdes ont commencé une lutte armée le 15 août 1984. Lutte armée qui continue jusqu'à aujourd'hui. La Turquie a continué la répression et donc le conflit est devenu armé dans le sens où la partie victime se combat aussi. Avant, c'était une répression uniquement de l'État sur un peuple qui pensait être un danger pour son existence. Donc ce conflit armé, il n'est pas le seul. En fait, c'est un conflit multiforme. C'est pas seulement des combattants qui se battent contre des soldats. Il y a par exemple 17 000 meurtres politiques non élucidés. Il n'y a aucune arrestation sur ces 17 000 meurtres. Ensuite, il y a 1400 disparus après être allés en détention. Et on n'a jamais eu de nouvelles. Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce qu'ils sont morts? On ne sait pas.
Je peux compléter à partir de là, si tu permets. Tu as parlé de nombre des disparus en garde à vue. En réalité, il y a dans les années 90, fin 90, il y a au total 17 850. Ça, c'est le nombre exact de personnes qui ont été soit arrêtées par les gendarmes, soit par les militaires, et qui par la suite ont complètement disparu. Et depuis, il y a les maires de samedi qui ont pris l'exemple sur les maires de la place d'El Mayo qui, depuis des années, demandent, luttent pour récupérer les ossements de leurs enfants. Et ces 17 750 personnes ont été tuées, entre parenthèses, qu'on appelle par le Hezbollah, qui était sous la domination, sous le contrôle de l'État turc, qui aujourd'hui, Erdogan, pour de nouveau diviser pour mieux régner, a fait de sorte que leur parti politique, entre parenthèses légale, puisse siéger à l'Assemblée nationale. Il y a aujourd'hui 4 députés du Hudapar qui sont les membres du Hezbollah qui ont tué ces Kurdes qui étaient des journalistes, des intellectuels, des médecins, des penseurs, des gens capables de contribuer à l'éveil de la population. Ce n'étaient pas des gens qui avaient pris les armes, c'était pas des gens qui étaient, c'était des militants sur le plan public. Donc il y a déjà ce côté-là et il y a aussi les arrestations. Les arrestations de ce qu'on considère militants, comme disait mon ami des espions qu'on met à l'intérieur même de tous les foyers, chaque enfant est formée par son enseignante qui est elle-même ou lui-même déjà formé en tant que, comment je veux dire, au service des services de renseignement turcs, chaque enfant est chargé d'espionner l'intérieur de sa famille, de dire « mon père a parlé le kurde, ma mère a parlé le kurde, ma petite sœur, mon petit frère ». Donc ce qui fait qu'il y a un état de chaos, de traumatisme total, où la langue kurde, où la culture kurde est réprimée de façon à ce qu'on puisse l'écraser une fois pour toutes. Mais ce qui se passe, c'est qu'à cette période, comme la langue kurde, comme disait Soupi, était complètement interdite, eh bien, les femmes kurdes, les mères kurdes, qui ne parlaient pas un mot de turc, ont élevé des enfants, leurs enfants, qui ne parlaient plus un mot de kurde. C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus ce moyen de communiquer avec ses propres enfants. Il y a des mères qui vont rendre visite à leurs enfants emprisonnés, qui ne peuvent pas leur parler, qui sont devant la prison, ce sont des histoires vraies, devant lesquelles, devant la maison d'arrêt, on leur apprend 2-3 mots en turc pour dire « il faut que tu dises ça, si tu dis un seul mot kurde, non seulement tu ne reverras plus jamais ton fils, mais de plus, ton fils ou ta fille va être de nouveau torturé à cause de toi. » Donc, par exemple, on apprend... il y a justement ce jeune homme qui s'appelle Soupi comme toi, qui sa mère vient le voir. Après, il a écrit un livre sur son histoire. Et devant la prison, une mère lui apprend à dire « Soupi, mon fils, comment tu vas ?» C'est tout ce qu'elle sait. Et pendant près de 20 minutes, elle n'arrête pas de répéter ça. Et à un moment donné, le fils explose. Il dit « Mais maman, dis-moi autre chose. » Et là, on les arrache, la mère d'un côté, le fils d'un autre côté, parce qu'ils ont eu le malheur de parler la langue kurde. On a dit qu'on avait dû prendre les armes au milieu des années 80, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui au début, vers la fin des années 70, a, comme tous les partis ou organisations formées à cette époque, a pris l'exemple sur le marxisme-léninisme qui était... très en vogue ou qui était avant-gardiste à l'époque et qui a créé un parti politique idéologique qui est le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est le PKK. Nous disons PKK parce que la Turquie l'utilise, PKK, pour, vous voyez la résonance, pour insulter le mouvement kurde. Donc nous le prononçons de la façon kurde. Nous disons PKK pour, parce que c'est comme ça que ça se prononce en kurde et pour éviter que ça fasse un truc péjoratif. De ce fait, comme mon ami l'a dit, il y a eu 28 autres révoltes avant celui lancé par le mouvement de libération kurde mené par le PKK qui ont été tous baignés dans le sang. Le premier révolte kurde, elle date de 1924. Alors que la République turque a été fondée fin 1923. Car toutes les promesses faites au peuple kurde, au niveau international et au niveau national, n'ont pas été tenues. Et le peuple kurde s'est révolté. On a parlé de division, on a dit une partie du Kurdistan et en Turquie. Non, c'est la Turquie qui est au Kurdistan. C'est sur nos terres qu'ils sont occupés. C'est l'Iran qui est au Kurdistan. C'est la Syrie qui est au Kurdistan. C'est l'Irak qui est au Kurdistan. Ce n'est pas le Kurdistan qui est là-bas. Il y a eu même une des personnes qui a été assassinée par ces Hezbollah et ces forces de sécurité de l'État turc. Un écrivain, philosophe, penseur, Moussa Antel, qui avait quand même 77 ans, lors d'un de ses procès, on lui dit, il demande un interprète pour parler en kurde. On lui dit non, tu ne peux pas parler en kurde, le fait de parler en kurde nous dérange. Alors il dit, et il est à Diyarbakir dans une ville kurde, le procès se passe là-bas, et il dit si le fait de parler le kurde dans ma ville vous dérange, ça veut dire que vous avez formé vos frontières sur ma terre, sur ma culture, sur ma langue. Donc c'est à cause de cela que le peuple kurde, toutes les tentatives de mener la lutte sur le plan public ont échoué. Ils ont tous été arrêtés, envoyés à l'exil, exécutés, tués sous la torture, sans solution. eh bien, une lutte armée a été lancée, une lutte armée qui est tout à fait légitime. J'explique, parce qu'il y a même chez un individu, quand il se passe quelque chose, si on mène une défense pour se défendre, de la légitime défense, qu'il se passe quelque chose de grave, eh bien on dit qu'il y a eu la légitime défense. Par contre, pour les Kurdes, on ne reconnaît pas ce droit. Les Kurdes, on les bâillonne. Tu as dit que la langue kurde avait été un peu laissée plus libre. Il y a une chanteuse, Nudem Durak, je pense que quelques amis le connaissent, qui est en prison depuis plus de 9 ans et demi, qui a été condamnée à 19 ans pour avoir chanté des chansons en kurde. Ces derniers temps, il y a une ou deux semaines, il y a eu des dizaines d'associations, des journalistes, des membres, des activistes d'associations qui ont été arrêtés parce qu'ils donnaient des formations ou ils menaient des activités dans leur association en kurde. Donc l'interdiction sur la langue kurde, sur la culture kurde, sur l'existence du peuple kurde n'a pas cessé. Et est-ce que cette répression, on le vit seulement du côté turc? Non. Par exemple, en Syrie, pendant des décennies, les Kurdes étaient, pourtant ils sont nés là-bas, c'est leur terre. La Syrie a été fondée après 1923. Ils sont venus sur nos terres, mais les Kurdes vivaient en tant qu'apatrides sur leur propre terre. Ils n'avaient même pas la nationalité syrienne. Ils ne pouvaient pas devenir cadres, ils ne pouvaient pas acheter un bien, un commerce. Donc, des gens n'existaient pas. Tu as parlé de 5000 personnes massacrées à l'arme chimique à Halabja en 1988, le 16 mars. C'était l'arme chimique fournie par l'Europe, notamment par l'Allemagne, avec l'approbation aussi de la France. Saddam, qui était reçu avec des tapis rouges en France, est devenu du jour au lendemain l'ennemi des Occidents. Mais quand il a massacré les Kurdes, tout le monde s'est tué. C'était pas 5000 Kurdes qu'il a massacré. Il a gazé 5000 Kurdes. Mais au cours de l'année 1987-1988, il a massacré 182 500 Kurdes. C'est-à-dire décimer tous les hommes de la région irakienne kurde pour que les femmes kurdes ne puissent plus enfanter, donc commettre un ethnocide sur le peuple kurde.
Je vous remercie, c'est parfait comme présentation. Maintenant, j'aimerais juste que vous nous présentiez le rôle de Abdullah Öcalan là-dedans.
J'allais juste revenir. Abdullah Öcalan est une des personnes qui est le fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan. Il est devenu le leader politique du peuple kurde plus tard. Il est une des personnes d'avant-garde qui sont dans une association d'étudiants qui essayent de parler de la question kurde, même si il y a des progressistes, des révolutionnaires de Turquie, on voit que arrivé à un moment donné, ça coince au niveau de la question kurde. Quand on s'approche de la question kurde, il y a le kémalisme, le nationalisme kémaliste d'Atatürk. Qui refait surface. Donc, ils ressentent le besoin d'avoir une pensée, une philosophie kurde, pour l'identité kurde. Et c'est à cette époque, en 1978, on ne parle pas de l'Europe, hein, même si je sais qu'à cette période-là, l'Europe n'était pas non plus ce qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, il y a des femmes et des hommes qui fondent le Parti des travailleurs du Kurdistan. Parmi eux, il y a Sakine Cansız. Sakine Cansız, qui est une femme, qui est une femme qui a résisté sous la torture dans la prison, dans la geôle de Diyarbakir, qui est la pire, qui a eu, excusez-moi l'expression, qui a eu ses seins, les mamelons de couper, et elle dit que elle n'a pas montré la moindre onde de souffrance face à ses tortionnaires, car j'étais la militante d'une cause juste. C'est à cette période-là qu'on parle d'un Kurdistan féodal qui a fondé le PKK avec Öcalan et quatre femmes et 22 autres personnes. Et par la suite, avec le coup d'État, les arrestations, Sakine Cansız et d'autres sont arrêtés. Il a parlé de Mazlum Doğan qui est aussi un des membres fondateurs qui est par la suite qui meurent. Il y a des grèves de la faim, des 4 membres fondateurs qui font une grève de la faim, qui meurent suite à ce qu'on appelle une jeûne de la mort, pour pousser la population à l'extérieur à se réveiller. C'est-à-dire qu'il y a une répression tellement lourde que la population est complètement assommée. Donc la résistance dans les prisons monte au niveau de la population. C'est pendant un procès qu'il y en a un qui réussit à dire « Nous sommes en grève de la faim, nous résistons face aux tortures. » Et de là repart la résistance kurde. Cependant, avoir un parti politique, une idéologie ne suffit pas. Et en 1984, est lancée la lutte armée. Et c'est là que Öcalan prend de plus en plus d'ampleur, parce que la force armée qui est fondée n'est pas une armée d'attaque. Les forces de défense, d'autodéfense populaire, par exemple même au Rojava, les forces de défense, on ne dit pas les forces d'attaque kurdes, on dit les forces de défense kurdes. Car toute lutte armée, toute lutte est une obligation, donc c'est de l'autodéfense, et c'est dans ce cadre-là que la lutte est menée. Et Öcalan analyse, c'est une personne qui lit énormément, qui est extrêmement, qui est très très, il a une capacité d'analyse qui est extrêmement vive par rapport aux autres camarades, et il fait beaucoup beaucoup de recherches. Et il y a ses recherches dès la fin des années 80, les années 90, eh bien il arrive à la conclusion que l'État-nation n'est pas une solution pour le peuple kurde. Car on dit, on ne se déchaîne pas d'une répression de la féodalité ou d'un État antidémocratique pour fonder un autre État qui, tant qu'on n'a pas démocratisé, libéré les mentalités, libéré les femmes, qu'on n'a pas réussi à avoir une société égalitaire, féministe, écologique déjà dans ces années-là, on ne peut pas parler d'une société libre. Donc, s'il faut vivre dans un État-nation et avoir de nouveau une répression quelques années plus tard, autant que ce soit sous l'État d'un autre pays, de cette façon, on ne combat pas les nôtres. Vous voyez, c'est un peu grosso modo, je résume, mais c'est ça. Et donc, il rentre en contact avec Murray Bookchin, c'est comme ça que nous on dit, je ne sais pas comment vous le dites. Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont beaucoup d'échanges par rapport au municipalisme, par rapport au pouvoir décentralisé et une analyse d'un nouveau regard sur la question kurde. Et de cette façon, eh bien, Öcalan développe, en prenant l'exemple, des exemples, des idées, des points de vue de tout ce qui a été vécu jusqu'à maintenant, pour mettre en avant ce projet de confédéralisme démocratique que le peuple kurde est arrivé à se dire, oui, effectivement, c'est une solution pour nous. Pourquoi ? Eh bien, on a dit, la Turquie est sur le Kurdistan, il y a les Arméniens sur les terres kurdes, il y a les Syriaques, il y a les Turkmènes, il y a les Arabes, il y a enfin tous les autres, les Alévis et tout ça. Que faut-il faire? Si on veut redessiner les frontières du Kurdistan, il va falloir qu'on commence à faire des massacres. Je pense que s'entretuer pour remettre en place une nouvelle domination n'est pas le cas. Donc, on a ce projet de démocratie directe, ce projet de vivre ensemble, ce projet de partager, ce projet de démocratie participative qui a été mis en laboratoire au Rojava. Le Rojava qui est le nord et l'est de la Syrie, qui est le territoire à grande majorité de Kurdes, où la Turquie mène tous les jours, des attaques ciblées, encore aujourd'hui. Une mère et son enfant ont été tués parce qu'il y a un véhicule qui a été... il a visé les commandants, ceux qui ont mené Daesh à la défaite. Il y a eu des dizaines qui ont été directement visés, assassinés. Il y a un écocide, il y a un tercide, il y a ethnocide, qu'est-ce que j'ai noté, culturocide, enfin tout ça. La Turquie mène, massacre, détruit le peuple kurde, son territoire, son climat, avec les armes de l'OTAN, et ça avec le silence de tous. Alors que quand on parle du Moyen-Orient, eh bien, il y a eu deux peuples qui ont été laissés sans statut. C'est le peuple arménien et le peuple kurde. Les Arméniens, on a essayé de rattraper le coup, même si actuellement ils vivent de nouveau face à un risque de nouveau génocide. Même si on en parle beaucoup, bah, malheureusement, ils sont face à de nouveaux risques. Et le peuple kurde qui lutte pour sa dignité, qui lutte pour une identité, qui lutte pour pouvoir vivre comme vous et moi, et qu'on arrête de nous criminaliser, de nous... Par exemple, il y a une grosse campagne qui est menée depuis l'année dernière, le 9 octobre, qui est la date du complot international qui a été mené sur la personne d'Öcalan contre le peuple kurde. Parce que ce n'est pas Öcalan qui a été visé. Par l'arrestation d'Öcalan, c'est la lutte du peuple kurde qui a été visée. On a dit, on enferme Öcalan, on va le donner à la Turquie, la lutte armée va se casser la figure. De cette façon, on va pouvoir calmer la Turquie et continuer à disposer des, comment on appelle ça, des bases aériennes, des bases pour attaquer si nécessaire la Russie et tout ça sur les territoires turcs. Mais sauf que on a enfermé l'homme, on n'a pas enfermé les idées.
Au contraire, peut-être même ça a donné encore plus envie de continuer le combat.
Tout à fait, vous m'aviez posé la question tout à l'heure, comment se fait-il qu'il y a les écrits de Öcalan alors que Öcalan est en prison? Eh bien, pendant des années, quand aujourd'hui c'est le gros traumatisme de l'État turc, mais aussi d'Assad, des mollahs d'Iran, même de l'Irak, il y avait pendant des années des enregistrements vidéo qui venaient des hauts des montagnes où Öcalan et ses camarades donnaient des formations. Et ces cassettes-là étaient visionnées pratiquement dans toutes les maisons où, par exemple, à l'époque, je parle de l'Europe, moi. Peut-être que tout le monde n'avait pas... S'il y avait une voisine ou un Kurde ou une Kurde qui avait une grande maison, eh ben, il y avait 40-50 personnes qui allaient là-bas, qui écoutaient les cassettes. Et après, il y avait l'analyse. Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on en sort? Donc, ces livres, ce sont ces discours qui ont été faits pendant des années. Il y a eu ce qu'on appelle sa feuille de route qui a été émis quand il était pendant son jugement, et aussi les procès-verbaux de ses auditions, de son jugement qui était public, dont tout a été enregistré. Et tout ça a été par la suite mis en livre, en écrit et tout ça. Et actuellement, ce qui est le plus grave, c'est que ce 19 octobre, nous allons faire un grand concert, pas que nous avons le cœur à la joie, parce que malheureusement, il y a la guerre s'est étendue, mais malheureusement chez nous, il y a la guerre depuis des années. Tous les jours, nous mourons, dans le silence total de tous et de toutes. On fait de sorte que quand on essaye d'aviser, d'informer en tant que Kurde, en tant que franco-kurde, en tant que français, eh bien, nous sommes d'une façon criminalisés, d'une façon amenés à être silencieuse ou silencieux, ici, en France, en Europe aussi. Si vous me donnez des exemples, je peux vous en donner, ce que j'ai vécu personnellement ou tout le contraire. Donc on essaye de dire, eh bien, le PKK est une organisation terroriste, Öcalan est un terroriste qui est en prison depuis 25 ans, sauf que Nelson Mandela était en prison pendant 27 ans, il était terroriste, c'était un terroriste, l'ANC était un terroriste, Yasser Arafat était un terroriste, l'OLP était une organisation terroriste, Mesut Barzani était un terroriste, son organisation, le KDP ou le KRG de maintenant, étaient des terroristes, et on les a enlevés de la liste des organisations, des entités terroristes, quand les intérêts ont changé. Donc, le fait qu'un peuple lutte pour son identité, pour son existence, ne doit pas permettre aux États-nations qui ont des intérêts dans la destruction de nos terres, puisque nous avons le malheur, malheureusement, d'avoir de l'eau sur nos terres, vraiment beaucoup d'eau, d'avoir des minerais, d'avoir du pétrole, d'avoir vraiment un écosystème qui est extrêmement riche, et donc on n'arrive pas à diviser ce territoire. On ne veut pas le donner aux Turcs, mais en même temps on dit... pendant que la Turquie affaiblit le mouvement kurde, bon, après, on verra ce qu'on va faire, parce qu'il y a des projets sur... il y a le pétrole. Et de ce fait, nous avons entamé une campagne depuis des années, mais en particulier l'année dernière, ce sont nos amis, ce sont les internationales qui ont entamé cette campagne pour demander des nouvelles de Jalan, parce que cela fait 43 mois que nous n'avons aucune nouvelle, ni sa famille, ni ses avocats, ni qui que ce soit ne sait s'il est encore en vie. C'est pour cela que le 19 octobre, nous organisons un concert où il y a des artistes internationaux, justement, nous vous attendons, vous, nos amis. Les Kurdes, ils connaissent la question kurde. Les Kurdes, ils connaissent la répression sur le peuple kurde. Les Kurdes connaissent le fait que d'être pro pour la libération du mouvement, enfin, pour Öcalan et pour la libération du peuple kurde, peut vous criminaliser. Eh bien, nous avons besoin de nos amis de dire qu'un peuple a droit à mener son autodéfense et nous sommes à vos côtés. Donc, je vais peut-être conclure là. Je vous invite tous et toutes à venir le 19 octobre à 16h. C'est à Montreuil, c'est pas loin, hein, c'est à Paris. Si vous ne pouvez pas venir, communiquer autour de vous pour qu'on puisse, lors de ce concert, eh bien, de dire que, encore une fois, cessez de criminaliser le peuple kurde, car en criminalisant Öcalan, en criminalisant le PKK, c'est-à-dire le mouvement de libération kurde, vous criminalisez monsieur et madame tout le monde chez les Kurdes. Et ça, vous n'avez pas le droit. Nous avons combattu pour vous, vous tous, ceux qui sont ailleurs. Nous avons perdu 12 000 de nos enfants pour le combat contre Daesh. Nous gardons plus de 70 000 Daeshiens sur nos terres. Nous n'avons pas de quoi manger, mais nous partageons nos pains avec eux. Nous demandons à ce que le statut du Rojava soit reconnu, que ces gens-là soient jugés, mais il n'y a rien qui est fait. Donc, quand on combat aux côtés du PKK en tant qu'armée française, armée allemande, armée américaine, une fois que les intérêts sont finis, on dit « mais ils étaient des terroristes ». Dans ce cas-là, que faisiez-vous aux côtés de terroristes, dirais-je, et je termine.
Merci beaucoup, Benoît.
Ah, j'aurais voulu redire les deux paradoxes. Le paradoxe d'un État qui classe un mouvement politique comme terroriste, alors que dans la réalité, c'est un État qui pratique un terrorisme d'État. En fait, on veut empêcher les Kurdes d'être connus, d'exister. Alors, nous, dans nos campagnes, souvent on dit « liberté pour Abdullah Öcalan ». Et après, on dit une autre chose, c'est résolution politique de la question kurde ou statut pour le Kurdistan, qui en fait veut dire la même chose. En fait, le vrai problème à la base du conflit lié aux Kurdes, c'est un problème de démocratie. Aujourd'hui, si on a un État démocratique en Turquie, ça va de soi que la question kurde n'existe plus. La question kurde aujourd'hui, elle est une question turque. Elle est une question irakienne, syrienne, iranienne, mais principalement turque, parce que c'est eux qui sont les plus virulents et qui ont la politique la plus dure vis-à-vis des Kurdes. Ils disent eux-mêmes, hein, même si en Argentine, il y avait un Kurdistan, on ferait tout pour qu'il n'existe pas. Ça va jusque les noms des animaux, au niveau de la classification latine. Quand il y a le mot Kurdistan ou Arménie, les Turcs ont fait campagne pour que ça soit annulé. Ça n'existe plus. Donc on veut complètement effacer une identité. Alors, la réalité, ce n'est pas un État qui protège sa population contre d'affreux terroristes. C'est un peuple dont on veut éradiquer l'identité et les empêcher d'être reconnus. C'est-à-dire qu'ils aient un statut, qu'ils soient libres, comme tout le monde, qu'ils aient une patrie dans laquelle ils vivent, mais ils ne peuvent pas s'en revendiquer. Donc le terrorisme turc, c'est terrorisme des Kurdes, lutte contre le terrorisme. Dans la réalité, c'est une oppression, un génocide commis contre les Kurdes, qui est une lutte armée pour la liberté, l'autodétermination et la démocratie. La deuxième paradoxe, c'est Erdogan, récemment, a pris fait et cause pour le Hamas. Le Hamas, pour lui, n'est pas un mouvement terroriste. Il est un mouvement de libération pour de leur peuple. Donc ce que tout le monde dit, que le Hamas est plutôt terroriste, Erdogan, lui, il n'est pas d'accord dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il n'est pas d'accord. Ça ne l'arrange pas. Parce que le Hamas fait partie des frères musulmans, dont la KP fait partie. Voilà. On en arrive là. C'est-à-dire que le vrai terroriste est montré en protecteur d'un pays et le combattant de la liberté est traité de terroriste.
Merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir été.
On n'a pas beaucoup de temps, mais on a quand même 10 minutes, un quart d'heure pour les questions du public.
Tu parlais de répression en France. Est-ce que tu peux donner des illustrations de...
La plus flagrante, c'est un jeune qui était... il avait remis tous ses documents à la France, comme quoi il était condamné en Turquie pour propagande d'une organisation terroriste, donc d'avoir parlé du PKK. Et il a été renvoyé manu militari en Turquie, il a été carrément rapté, enlevé, ligoté. Et ce jeune homme de 27 ans est porteur d'une maladie orpheline qui est le syndrome de Morfan, dont le cœur est trop gros, le poumon, ça peut éclater à tout moment. C'est une personne qui a besoin de soins. Eh bien, il a été envoyé en Turquie en étant, je vous dis carrément, kidnappé, enlevé. Et ce vendredi, la cour d'appel de Paris a annulé l'OQTF et tout ce qui le concernait en disant que c'était une violation des droits humains. Donc ce jeune homme, il est en attendant, il est dans les prisons turques et la Turquie s'est vantée en mettant devant un drapeau turc en disant on a été chercher le terroriste en France. Ça c'est une chose, 3 personnes qui ont été extradées, une 4e il y a quelques années de ça. Et il y a plus d'une 50aine de personnes qui ont vu leur titre de séjour en tant que réfugiés politiques leur être retiré. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent sans statut, sans autorisation de séjour, parce qu'on les accuse d'avoir mené une campagne pour demander la libération de Jalan. Je vous donne l'exemple d'une femme qui est Gulhatun Kara, que tout le monde peut regarder sur la presse et les médias. On l'accuse d'avoir participé à des émissions de télévision, de radio, d'avoir fait des débats comme moi, d'avoir été faire des voyages pour faire des conférences sur les femmes. Et bien sûr, il faut quand même réussir à trouver un truc. On dit, et elle a financé une organisation terroriste. Donc, cette femme est actuellement face à un renvoi vers l'Allemagne qui a émis un mandat d'arrêt international la concernant depuis 2022, sauf qu'entre 2022 à maintenant, elle a été en Allemagne 11 fois aller-retour. L'Allemagne ne l'a pas touchée. Mais le jour où l'Allemagne a dit « il me la faut », la France a fait une opération 6h du matin à son domicile pour l'arrêter, l'emprisonner, après la libérer sous contrôle judiciaire. Donc, de cette façon, on veut faire quoi? On veut pousser les Kurdes dans la peur, l'appréhension, de dire à chaque instant, si vous faites moindre chose pour les Kurdes, vous pouvez vous retrouver en Turquie, dans les prisons, où on vous arrête et on vous retire votre titre, on vous met en prison. Donc il y a une répression, une collaboration honteuse de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, qui est menée envers les Kurdes. Et de l'autre côté, quand ça les arrange, on est des braves combattants, les meilleurs combattants du monde contre... les barbares et tout ça, ces barbares ont continué ils se sont réveillés, il y a eu des cellules dormantes qui ont commencé et malheureusement ça me fait mal de le dire parce que j'ai perdu aussi mon fils dans ce combat. Eh bien on va nous dire encore les braves combattants kurdes, sauf que il va falloir ce coup-ci il va falloir marchander. C'est donnant-donnant, maintenant les Kurdes ne sont pas boucher, la chair à pâté de qui que ce soit. Il va falloir reconnaître le statut du Rojava pour qu'il y ait un tribunal international qui juge ces criminels de guerre, où ils ont commis les délits, au Rojava, au Kurdistan, donc ils seront jugés là-bas. Donc c'est à nous, c'est à vous de dire qu'il faut que la France commence par décriminaliser le mouvement kurde pour que le reste puisse venir. C'est pour mettre la peur dans le cœur de ceux qui veulent soutenir ce projet politique qu'ils considèrent démocratique, qui est une alternative à l'État-nation. L'État-nation qui divise, l'État-nation qui amène les peuples à s'entretuer, qui amène les religions à s'entretuer ou s'entregripper, alors que le confédéralisme démocratique est un projet de vivre ensemble. Nous avons réussi, en tant que Kurdes, en tant que Yézidis, en tant que chrétiens, à vivre ensemble, à gérer notre vie ensemble dans plusieurs cantons, dans le nord et l'est de la Syrie. Et ici, on est encore au truc de dire, est-ce qu'il y a de l'islamophobie ou il n'y a pas ? Donc, il y a beaucoup de choses que l'Europe a à apprendre des Kurdes, mais l'orientalisme fait que la lumière part de l'Europe, ne vient pas du Moyen-Orient. Donc, c'est aussi un préjugé qu'il va falloir casser.
Sur ce préjugé, aujourd'hui, en Turquie, ça a commencé. Les Kurdes sont arrivés à une conclusion depuis ce que disait Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan a dit que la première catégorie sociale qui doit être libérée, et sans celle-là, il n'y aura pas de libération nationale, c'est la libération de la femme. Parce que c'est la catégorie qui a été opprimée depuis des millénaires, et que sans cela, on ne peut pas faire de lutte pour une libération nationale. Aujourd'hui, tous les mouvements qui sont autour du PKK, tous les postes sont doubles. Vous avez, quand vous avez une mairie, il y a un commère homme, une commère femme. Un président de parti, il y aura les deux coprésidents hommes-femmes. Donc, il y a quand même une fierté.
Il y a la parité
de se dire voilà, qu'on a trouvé cette solution-là, qui n'est même pas, par exemple, encore à pratiquer en Scandinavie, ils sont assez modernes à ce niveau-là. Donc, je trouve que cette situation d'adversité que les Kurdes connaissent plus toujours leur a conduit à être très innovateurs. Et ils sont à l'avant-garde de nombreuses luttes. Donc, c'est pas juste le problème des Kurdes. C'est que ce problème fait qu'on trouve des solutions à beaucoup de choses, notamment, comme disait Berivan, sur le vivre ensemble. Mais le Moyen-Orient, on ne peut pas faire un État que de Turcs, que de Kurdes, que d'Arabes. C'est impossible. Ils ont toujours été intermélangés. Il y a des mélanges entre mariages, entre voisins. Donc, la seule façon, c'est de faire ce que a donc théorisé Abdullah Öcalan, c'est un confédéralisme démocratique. Qui ne serait pas basé uniquement sur les
États-nations. Nous pensons même que ça sera nations. Aussi la solution dans le conflit israélo-palestinien.
Ouais. Exactement. Et par rapport à ce que vous disiez sur le terrorisme, on voit bien, nous, aujourd'hui, à travers nos luttes militantes écologistes, que nous aussi, on est considérés comme des éco-terroristes. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'est pas d'accord avec l'État, voilà, on est tout simplement taxé de terrorisme et ça permet d'emprisonner les gens, de les mettre en garde à vue, de les taper. Voilà. Et moi, je pense aussi que vraiment, tout ce que j'ai pu lire maintenant des écrits d'Abdullah Öcalan et sur la généalogie, on en reparlera sur le féminisme, je pense qu'effectivement, on a beaucoup à apprendre sur cette autre option qui est le confédéralisme démocratique, qui permet de se débarrasser de l'État-nation, qui ne fait que, en fait, nous opprimer et puis détruire notre environnement.
Il y a eu deux mouvements qui ont fait participer beaucoup de personnes dans le monde, qui étaient un peu de l'ordre du problème kurde, c'est Nelson Mandela et c'est les Palestiniens. Et il y a eu un soutien mondial pour ces deux causes-là. Et ils ont une autorité, enfin un droit de cité, que les Kurdes n'ont pas, ils commencent tout juste à l'avoir. Nelson Mandela, il est sorti de prison, il est devenu président de l'Afrique du Sud, il était invité aux États-Unis. Et il y a un problème pour son visa, il était encore sur le parti des personnes terroristes.
Ah oui.
Pour vous dire l'hypocrisie de cette dénomination. Aujourd'hui, on nous dit que l'Union européenne a classé le PKK comme organisation terroriste. Elle l'a classé, bien sûr, pour des intérêts économiques et géopolitique pour, avec la Turquie, mais c'est quand même, on peut dire, étrange. Quand on a des institutions juridiques qui donnent des verdicts et qui disent que le PKK n'est pas une organisation terroriste. Il y a eu plusieurs cas, notamment en 2019 en Belgique. Ils l'ont dit clairement, le PKK n'est pas une organisation terroriste. Il est parti d'une lutte armée dans un conflit interne. Et on ne peut pas le qualifier d'organisation terroriste. Donc, les gouvernants, les politiciens, ceux qui sont dans l'exécutif et pas dans le judiciaire, ils sont complètement porte-à-faux par rapport au jugement dans leur pays.
Je pense que je peux donner cet exemple-là et peut-être nous arrêter. Il y a eu une décision de la Cour d'appel belge qui a justement statué dans ce cadre-là. Et le lendemain, le ministre des Affaires intérieures belge a dit non, cette décision ne nous concerne pas, le PKK est une organisation terroriste. Donc, il a méconnu une décision juridique de son pays. Alors, vous voyez à quel point ça peut être délirant.
Merci beaucoup.
En tout cas, même si on est terroriste, on est joli quand même.
On est tous d'accord.
Alors, si vous voulez en savoir plus, on va arrêter l'enregistrement, mais vous pouvez bien sûr continuer à échanger avec Berry Van Essoupi. Vous pouvez aussi approfondir votre connaissance du Kurdistan avec des lectures. On a quelques livres qui nous ont été prêtés par la librairie chez Josette. Il y a aussi des livres du Centre démocratique kurde. Comme ça, la prochaine fois qu'on se verra, vous en saurez autant que nous.
Le 19 octobre, s'il vous plaît, communiquez. On a Nelson Mandela, vous savez comment il a été libéré. Alors, bon, vous n'êtes pas obligé d'être un coco, hein. C'était à l'époque, on n'a pas tous eu la chance d'avoir des parents communistes, il y avait un film comme ça, voilà. Et c'est quand même une campagne internationale qui a été initiée par le Parti communiste. On peut aimer, ne pas aimer, mais je parle de la campagne de libération et de décriminalisation de Nelson Mandela. Eh bien, ça a commencé par le mouvement de la jeunesse, les jeunes communistes en Lorraine, dont j'étais parmi, hein, je suis de la Lorraine, je le dis avec fierté, et qui ont commencé cette campagne qui s'est internationalisée par la suite, amenant à la libération de Nelson Mandela et par la suite à la décriminalisation, puisqu'il était listé terroriste jusqu'en 2013, c'est pour vous dire, hein. Oui. Donc chaque mot, chaque geste, chaque partage que vous ferez, même entre amis, sera une contribution à la lutte légitime du peuple kurde. Ce soir, je pense, vous pouvez décider de dire je vais aider le peuple kurde. Donc voilà une façon de commencer.
Et puis ça remontre, c'est sympa.
Oui. Ouais. Et c'est moi je serai là pour parler encore.
Des cafés librairies.
Cafés librairies, il y aura de la nourriture aussi, des repas, il y aura des stands associatifs. Et le prix du billet surtout, parce que malheureusement on est obligé de mettre des billets parce que c'est 30 euros, peu importe la place, donc voilà.
Et je voulais dire à ce propos, les gens qui sont là, en fait ils ont un grand rôle, parce que des États comme la Turquie, en fait ils peuvent perdurer en mettant sous le tapis le problème, en le cachant de l'extérieur. Donc quand on a une reconnaissance par les autres peuples, c'est un des piliers du succès de la lutte pour la libération.
De toute manière, c'est les minorités qui, sont arrivées à... Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci. Thank you.